Dans tout mon univers, je n'ai rencontré aucune loi de la nature, immuable et inexorable. Cet univers ne nous offre que des relations changeantes qui sont parfois perçues comme des lois par des consciences à courte vie. Ces ensembles de sens charnels que nous dénommons le soi sont des éphémères flétris par l'éclat de l'infinité. Fugacement conscient de certaines conditions provisoires qui confinent nos activités et changent en même temps que celles-ci. S'il faut que vous donniez un nom à l'absolu, utilisez son nom propre, provisoire. Les mémoires volées. Neila fut la première à apercevoir le cortège qui s'approchait. Transpirant à grosses gouttes sous le soleil de midi, elle se tenait près de l'un des piliers de pierre qui délimitait la chaussée de la route royale. Soudain, un reflet, au loin, avait attiré son attention. Plissant les yeux dans cette direction, elle avait compris dans un élan d'excitation qu'il s'agissait d'un éclat de soleil renvoyé par le capot-bulle du chariot royal. « Ils arrivent !» s'écria-t-elle. Alors seulement, elle sentit la faim qui lui tenaillait l'estomac. Dans le feu de l'action, personne n'avait songé à se munir de nourriture. Seuls les Fremen avaient emporté un peu d'eau, car un Fremen ne s'éloigne jamais de son siège sans une provision d'eau. C'était une règle qu'il connaissait par cœur. Neila toucha du doigt la crosse du laser qu'elle portait à la hanche. Le pont n'était qu'à une vingtaine de mètres d'elle, ses structures féeriques enjambant l'abîme comme un rêve fantastique reliant une désolation à l'autre. « C'est de la pure folie », se dit-elle. Mais l'empereur Dieu avait réitéré son ordre. Il insistait pour que sa Neila obéisse en tout point aux volontés de Siona. On ne pouvait être plus explicite que celle-ci. Impossible de se méprendre sur ses volontés. Et Neila n'avait aucun moyen d'en référer à l'empereur Dieu. « Quand le chariot sera juste au milieu du pont, et pas avant », avait dit Siona. « Mais pourquoi ?» Elle se trouvait, au moment de cette conversation, bien à l'écart des autres dans le froid de l'aube qui enveloppait la route royale. Neila s'y sentait étrangement vulnérable, incapable de résister aux tonalités graves de la voix de Siona, à son sourire sinistre quand elle disait « Crois-tu que tu pourrais faire du mal à Dieu ?»
Je ne...
Neila n'avait pu que hausser les épaules.
« Tu dois m'obéir. »
« Je le dois », avait acquiescé Neila.
Elle était à présent en train de suivre l'approche du lointain cortège, distinguant les couleurs des costumes des courtisans, les masses bleues à l'endroit où marchaient ses sœurs les truitesses, et la surface brillante du chariot de l'empereur Dieu. Ce devait être une nouvelle épreuve, décida-t-elle. L'empereur Dieu était certainement au courant. Il savait de quelle dévotion débordait le cœur de sa Neila. Ce n'était qu'une épreuve. Les commandements de l'empereur Dieu devaient être respectés à la lettre. C'était l'une des premières leçons que l'on apprenait dans les écoles des truitesses. L'empereur Dieu lui avait ordonné d'obéir aveuglément à Siona. Une épreuve. Qu'est-ce que cela pouvait être d'autre? Elle se tourna pour regarder dans la direction des quatre Fremen que Duncan Idaho avait postés sur la chaussée à la sortie du pont. Ils étaient assis le dos tourné vers elle, quatre blocs immobiles avec leurs capes brunes. « Ne bougez pas d'ici, » leur avait dit Idaho. Vous le saluerez dès qu'il apparaîtra sur le pont. Laissez-le s'approcher et inclinez-vous bien bas. » Juste pour le saluer, se dit Neila en hochant la tête. Les trois autres truitesses qui avaient escaladé le mur avec elle se trouvaient à présent au milieu du pont. Elles ne savaient rien d'autre que ce que leur avait dit Siona en présence de Neila. Elles devaient attendre que le chariot royal ne soit qu'à quelques mètres d'elle pour se retourner et le précéder en dansant, jusqu'à ce qu'il arrive avec le cortège au-dessus de Tuono.
Si je détruis le pont avec mon laser, ces trois-là mourront forcément, se dit Neila, de même que tous ceux qui accompagnent notre Seigneur.
Elle tendit le cou pour scruter les profondeurs des gorges. On ne voyait même pas le fleuve, mais on entendait le bruit lointain de l'eau qui coulait. Tous étaient condamnés à mourir, à moins qu'ils n'accomplissent un miracle. C'était la seule explication possible. Siona avait planté le décor d'un divin miracle. Que pouvait-elle avoir d'autre en tête, maintenant qu'elle avait passé l'épreuve,
maintenant qu'elle portait l'uniforme de commandement des Truitesses. Siona avait prêté serment devant l'empereur Dieu. Elle était allée seule avec Dieu dans le sarir et elle avait passé l'épreuve. Sans bouger la tête, Neyla regarda sur sa droite, où se trouvaient les responsables de cette mise en scène. Siona et Idaho se tenaient épaule contre épaule au milieu de la chaussée, à 20 mètres en arrière de Neyla. Ils paraissaient plongés dans une conversation profonde, hochant la tête à tour de rôle. À un moment, Idaho toucha le bras de Siona en un geste que Neyla trouva étrangement possessif. Puis il hocha la tête et s'éloigna seul, en direction du pont, pour s'arrêter devant le contrefort qui se trouvait juste en face de Neyla. Il pencha la tête pour scruter l'abîme, puis traversa la chaussée vers l'autre contrefort. Il pencha de nouveau la tête, demeura là un bon moment et retourna enfin rejoindre Siona. Quelle étrange créature que ce gars-là, songeait Neyla. Après cette formidable escalade, elle ne pouvait plus le considérer comme tout à fait humain. Il était autre chose, un démiurge dont le statut le rendait proche de Dieu, mais il pouvait procréer. Un cri lointain attira son attention. Elle se tourna pour scruter la route royale au-delà du pont. Le cortège qui trottait précédemment à l'allure habituelle de ce genre de pérégrination impériale s'était à présent mis au pas. Il n'était qu'à quelques minutes du pont. Neyla reconnut Moneo qui marchait en tête, avec son uniforme d'un blanc éclatant, à grands pas cadencés, en regardant droit devant lui. Le capot bulle du chariot royal avait été baissé, et la lumière s'y reflétait comme sur un miroir opaque, tandis que le véhicule roulait sur la chaussée derrière Moneo. Le mystère qui entourait tout cela faisait rêver Neyla. Un miracle était sur le point d'arriver. Neyla tourna la tête vers Siona. Celle-ci fit un bref signe d'acquiescement. Neyla sortit le laser de son étui et prit appui sur le pilier de pierre pour viser. D'abord le câble de gauche, puis le câble de droite, puis le treillis de plastacier sur la gauche. Le laser était froid et irréel dans la main de Neyla. Elle prit une grande inspiration tremblante pour recouvrer son calme. Je dois obéir. Il s'agit d'une épreuve. Elle vit que Moneo tournait la tête, sans changer d'allure, vers le chariot ou ceux qui venaient derrière pour crier quelque chose. Ils étaient encore trop loin pour que Neyla pût entendre. Le majordome regarda de nouveau devant lui. Neyla se colla au pilier, faisant corps avec lui, presque entièrement dissimulée. Une épreuve. Moneo avait aperçu du monde au milieu et à la sortie du pont. Il reconnut les uniformes des Truitesses et sa première réaction fut de se demander qui avait organisé un comité d'accueil. Il s'était tourné pour interroger l'empereur Dieu, mais le capot bulle demeurait opaque, préservant l'intimité de ses deux occupants. Il s'était engagé sur le tablier, et les roues du chariot derrière lui faisaient grincer les grains de sable apportés par le vent, lorsqu'il reconnut au loin les silhouettes de Siona et Idaho à la sortie du pont. Il y avait également 4 frémen de musée assis au bord de la route. Les doutes commencèrent à s'insinuer dans son esprit, mais il ne pouvait rien faire pour changer l'ordre des choses. Maintenant l'allure, il pencha la tête pour regarder le fleuve et entrevit un univers de platine figé par le soleil au zénith. Le chariot derrière lui roulait bruyamment. Le flot du fleuve, le flot du cortège, l'irrésistible importance de ces choses dans lesquelles il jouait un rôle. Tout cela verrouillait son esprit dans une vertigineuse sensation d'inéluctabilité. Nous ne sommes pas des gens qui ne font que passer, se dit-il. Nous sommes des éléments primordiaux qui servons à joindre une pièce du temps à l'autre. Et lorsque nous serons passés, tout retombera derrière nous dans un non-bruit analogue au non-espace des Ixiens. Mais rien ne sera plus jamais comme avant notre passage. Un air de lutte flotta soudain dans la mémoire de Moneo, et son regard à cette évocation devint vague. Il aimait cette mélodie nostalgique pour l'aspiration qu'elle contenait que tout soit fini, que tout soit passé, que les doutes soient bannis et la tranquillité restaurée. Les paroles plaintives s'imposèrent dans son esprit conscient comme une fumée torse et obsédante. Des cris d'insectes dans les herbes de la pampa. Moneo se mit à fredonner dans sa tête. Des cris d'insectes marquent la fin du jour, L'automne et ma chanson ont la même couleur que les dernières feuilles dans les herbes de la pampa. » Et Moneo hocha la tête en se chantant le refrain. Le jour s'achève, les visiteurs sont partis. Le jour s'achève dans notre siège. Le jour s'achève, le vent de sable souffle. Le jour s'achève, les visiteurs sont partis. Moneo décida que la chanson du joueur de luth devait être bien vieille. C'était un vieux chant Fremen, sans nul doute, et qui lui apprenait quelque chose sur lui. Il souhaitait vraiment que les visiteurs soient partis, que cesse le remue-ménage, que revienne la paix. Elle était si proche, la paix. Et pourtant, il ne pouvait abandonner sa responsabilité. Il pensa à tout le matériel entassé sur le sable, juste hors de portée de vue de Tuono. Ils allaient bientôt l'apercevoir. Des tentes, des vivres, des tables, de la vaisselle d'or, des couteaux incrustés de joyaux, des brilleurs dont les formes imitaient les arabesques des lampes antiques. Tous ces objets étaient si riches, si imprégnés d'attentes associées à des vies complètement différentes. Plus rien ne sera jamais pareil à Tuono. Plusieurs années auparavant, Moneo, à l'occasion d'une visite d'inspection, avait déjà passé deux nuits à Tuono. Il se rappelait l'odeur des foyers où ils faisaient cuire leur nourriture sur des fagots aromatiques dont les flammes dansaient et pétillaient dans la nuit. Il refusait d'utiliser des foyers solaires car ce n'était pas ainsi que l'on faisait dans le temps. Dans le temps. À part cela, Tuono ne sentait pas tellement l'épice. Les odeurs dominantes étaient le parfum acre-doux associé aux huiles extraites de la végétation des oasis et la puanteur des eaux usées et des ordures en décomposition. Moneo se souvenait du commentaire de l'empereur Dieu quand il lui avait rapporté ses impressions de ce voyage. Ces Fremen ne se rendent pas compte de ce qu'il manque à leur existence. Ils croient perpétuer l'essence des anciennes coutumes. C'est l'illusion de la plupart des musées. Il y a des choses qui pourrissent, qui se dessèchent, qui ne supportent pas d'être exposées. Ceux qui dirigent les musées et ceux qui viennent se pencher sur les vitrines le sentent quelquefois. Il manque aux objets une force qui actionnait jadis le moteur de la vie. Quand la vie disparaît, la force disparaît. Moneo fixa alors son attention sur les trois truites qui se tenaient un peu plus loin sur le pont. Elles levèrent les bras et se mirent à danser, en tournant sur elles-mêmes et en reculant à mesure que le cortège avançait. Étrange, se dit Moneo. J'ai vu des gens danser ainsi pour accueillir quelqu'un, mais ce n'était jamais des truites. Les truites ne dansent jamais en public, seulement entre elles et pour leur fête rituelle. Il n'avait pas fini de penser cela quand il entendit le premier vrombissement effrayant du laser et sentit le tablier du pont s'incliner sous ses pieds. Ce n'est pas possible qu'une telle chose arrive, lui disait sa raison. Il entendit le chariot royal déraper en crissant sur la chaussée et le capot-bulle s'ouvrir dans un claquement sec. Un affreux tintamarre de cris et de hurlements s'éleva derrière lui, mais il était incapable de se retourner. Le pont avait basculé sur sa droite et il se retrouvait à plat ventre, glissant la tête la première vers l'abîme. Il réussit à refermer sa main au passage sur un morceau de câble sectionné pour ralentir sa chute, mais le câble l'accompagna, raclant la fine couche de sable qui recouvrait le tablier et qui était emporté en même temps que tout le reste. Moneo agrippa le câble à deux mains, tournant en même temps que lui. Il aperçut alors le chariot royal qui dégringolait vers le vide, son capot-bulle à moitié arraché. Pouhi était debout, agrippé d'une main à son siège, et regardait horrifié, droit devant elle. Un sinistre déchirement de métal se fit entendre tandis que le tablier s'inclinait encore plus. Moneo vit plusieurs courtisans tomber dans le vide, la bouche ouverte, gesticulant comme des pantins. Quelque chose avait coincé le câble de Moneo. Il fut de nouveau brutalement secoué, tenant le câble à bout de bras, ses mains huileuses de transpiration et de peur glissant lentement vers le bas. Quand il aperçut à nouveau le chariot royal, il était pris dans un amas de poutrelles déchiquetées. Au moment même où Moneo regardait, les mains de l'empereur Dieu se tendirent vainement pour essayer de retenir Huwinori. Mais celle-ci glissa du chariot, silencieusement, droite comme une flèche, sa robe d'or déployée en corolle autour d'elle. Un vaste grondement sonore monta de l'empereur Dieu. Mais pourquoi ne se sert-il pas des suspenseurs ? Se demanda Monéo. Le laser, cependant, vrombissait toujours, et tandis que ses mains glissaient de l'extrémité sectionnée du câble, Monéo vit les traits enflammés frapper les bulles de suspension du chariot qu'ils firent éclater une à une dans une éruption de fumée dorée. Monéo, en tombant, tendit les bras au-dessus de sa tête. La fumée dorée. Sa cape se déploya derrière lui en l'orientant la tête en bas. Les yeux grands ouverts sur l'abîme, il reconnut tout en bas les tourbillons du torrent à l'image de sa vie, le flot tumultueux, les brusques cataractes, le mouvement rassemblant la substance. Les paroles de Leto hantèrent sa pensée auréolée de fumée dorée. La prudence est la mère de la médiocrité. Une médiocrité bien lisse et sans passion, voilà ce à quoi la plupart des gens se croient capables d'arriver. Monéo chutait librement dans l'extase de ses perceptions. L'univers s'ouvrait à lui comme du verre transparent, tout coulait dans le flot du non-temps. La fumée dorée. « Leto !» hurla-t-il. « J'ai la foi. Sienok. Sienok !» La cape s'arracha alors à ses épaules. Il tournoya dans le vent du précipice. Il entrevit une dernière fois le chariot royal qui penchait, penchait au bord d'un pont déchiqueté. L'empereur Dieu glissa par son ouverture béante. Quelque chose de dur s'écrasa contre le dos de Monéo. Sa dernière sensation. Leto se sentit tomber du chariot. Il ne se concentrait que sur l'image de Hui, heurtant la surface du fleuve en un lointain jaillissement perlé qui marquait son entrée dans le mythe et le rêve de la terminaison. Ses dernières paroles, prononcées d'une voix calme et sûre, résonnaient encore dans toutes ses mémoires. « Je te précède, mon amour. » Il vit le cimetière du fleuve, arc argenté qui miroitait entre des zones d'ombre, l'âme mortelle affûtée à l'éternité, prête à présent à accomplir son office. « Je ne peux pas pleurer, je ne peux même pas crier, » se dit-il. « Les larmes me sont interdites, bien que l'eau soit mon destin. Je ne peux que gémir dans mon chagrin. Je suis tout seul, plus seul que je l'ai jamais été. » Son grand corps annelé se tordait dans sa chute, tournoyant jusqu'à ce que sa vision amplifiée lui montre Siona, penchée au bord du pont détruit. « Maintenant tu apprendras, » pensa-t-il. Le corps vermiforme continuait à tournoyer. Il voyait approcher le fleuve. L'eau était un rêve habité par des poissons entrevus qui allumaient en lui le souvenir ancien d'un banquet au bord d'un bassin de granit, des chairs roses éblouissant ses appétits. « Je te rejoins, oui, pour le banquet des dieux. » Une explosion bouillonnante referma sur lui son enfer. Il se sentit happé par les courants caustiques, projeté en tous sens, déchiré par les rochers tranchants, tandis qu'il essayait, à grands soubresauts incoercibles, de s'arracher à cette cataracte. La paroi du gouffre défilait, noire et luisante, devant son regard saccadé. Des éclats de ce qui lui avait si longtemps servi de peau volaient autour de lui, explosaient en une pluie d'argent, une nuée de sequins brillants qui retombaient à la surface du fleuve. Les truites le quittaient pour vivre leur propre vie en tant que colonie. La douleur était toujours là. Leto s'étonnait d'avoir encore un corps, de pouvoir demeurer conscient. Poussé par l'instinct, il voulut s'agripper à un rocher que le torrent lui faisait contourner, sentit qu'un doigt s'arrachait à sa main avant qu'il pût lâcher prise. La sensation ne fut qu'une note mineure dans la symphonie de douleur où il se débattait.